voudrais faire ce matin, c'est comparer deux textes, un texte de l'Ancien Testament et un texte du Nouveau, qui mettent peut-être en lumière un obstacle qui risque de nous freiner sur ce chemin, et la manière de pouvoir se débarrasser de cet obstacle. Alors nous allons commencer par lire dans le livre d'Ésaïe, le verset 1 à 4. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait et la maison se remplit de fumée. Je vais vous inviter à, comme l'avait fait Giuseppe la semaine passée, vous mettre à la place d'Ésaïe. Essayez de visualiser, en fermant vos yeux, la situation dans laquelle il se trouve. Il est face à Dieu. La maison tremble au son de sa voix. Elle se remplit de fumée. Il y a une gloire immense qui règne dans ce lieu. Et il y a des séraphins qui volent au-dessus de lui. Comment vous seriez-vous senti à la place d'Ésaïe à ce moment-là? Petite précision à propos des séraphins. C'est un mot qui est très peu utilisé dans la Bible. Il apparaît seulement 7 fois. Il apparaît 2 fois dans le texte que nous venons de lire. Il apparaît encore 2 fois, une fois dans Ésaïe, mais plus loin dans le livre. Et il apparaît quelques fois dans le Deutéronome et les Nombres, dans le parcours de l'Exode dans le désert. Et vous savez ce qu'il désigne quand on parle de l'Exode? Le même mot qu'on traduit par séraphin, les serpents brûlants. Les serpents brûlants, à la fois un danger mortel qui va faire périr beaucoup de gens dans le peuple, et à la fois un moyen de salut quand Dieu dit à Moïse de construire un serpent d'airain, de le mettre sur un pieu, et tous les Juifs qui venaient le voir pouvaient être guéris de leurs morsures. On a donc cette situation où Ésaïe voit la gloire de Dieu, tout est en train de trembler. Les séraphins, on ne sait pas trop bien s'ils sont des anges, ils ont des ailes, mais ce sont des anges ou ce sont des serpents brûlants qui font du bien ou qui font du mal. Comment vous seriez-vous senti à la place d'Ésaïe? Bien? Effrayé? Je pense qu'on pourrait même dire terrorisé. Et c'est ce que va faire Ésaïe. Il va réagir par la terreur qui s'impose à lui. C'est la suite de notre passage. Simplement ici pour mettre en évidence tous les éléments qui pouvaient effrayer Ésaïe. Je vis le Seigneur, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il disait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait. » La réaction d'Ésaïe. Alors je dis, quel malheur pour moi, je suis perdu. Je suis perdu car j'habite, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. On vient de chanter avant, contempler Dieu sur son trône. C'est à la fois une belle image, mais c'est une histoire qui peut faire peur. Et c'est ce qui fut le cas d'Ésaïe à ce moment-là. Souvent, nous pensons que nous ne valons rien et que nous devons absolument faire toutes sortes de choses pour mériter l'amour de Dieu, pour l'amadouer, pour l'attirer vers nous. Mais quand on voit Dieu dans sa puissance, quand on le voit dans sa majesté, alors nous pouvons nous sentir perdus comme Ésaïe, nous dire que nous ne ferons jamais le poids vis-à-vis de lui. Ni nous, ni n'importe quel homme, ni moi, ni mon peuple, nous avons les lèvres impures. Nous sommes tous impurs, et donc nous sommes tous perdus. À moins que Dieu soit différent de celui que nous imaginons. Lisons la suite du passage. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée, ton péché est effacé. » Ta faute est enlevée, ton péché est effacé. Quelle magnifique nouvelle! C'est pas à l'homme de se donner de la valeur devant Dieu, de mériter quelque chose. C'est Dieu qui prend l'initiative, c'est le contraire. C'est lui, Dieu, qui donne à l'homme de la valeur. Dieu, par le vol de son séraphin, Dieu par le feu de sa présence dans le temple, Dieu qui enlève la faute, Dieu qui efface le péché. Et à ce moment-là, l'homme qui était mort de peur, qui était terrorisé, va pouvoir se lever. Il était écrasé, il va se retrouver debout, prêt à agir. C'est le verset suivant. Un petit problème. Là, avant encore. Bon, je vais vous le lire. J'entendis le Seigneur qui disait, c'est Ésaïe qui parle, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Alors je répondis, « Je suis là, envoie-moi. » Ésaïe était un homme perdu, qui se sentait impur, qui se sentait incapable de faire quoi que ce soit, et il se retrouve prêt à s'engager pour son Dieu. « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Il répond, « Je suis là, envoie-moi. » Sa bouche, qui représente son cœur, qui représente sa parole, a été visitée par Dieu, qui l'a touché avec ce charbon ardent. À partir de maintenant, Ésaïe va pouvoir participer sa joie avec tous les autres, sa joie de se sentir transformé. « Je suis là, envoie-moi. » C'est le premier texte que je voulais méditer un petit peu avec vous. Le deuxième, qui lui fait écho, se trouve dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 5 de l'Évangile de Luc. Il manque un morceau de nouveau. Je vais vous lire les premiers versets du chapitre, les versets 1 à 7. Comme la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au nord du lac deux bateaux, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux, qui était à Simon, il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit, et du bateau, il instruisit les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplir les deux bateaux au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. « Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent le bateau à terre, laissèrent tout et le suivirent. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plusieurs éléments qui ressemblent très fort à ce que nous rapporte le récit de la mission d'Ésaïe ? Quand il vit cela, Pierre tomba aux pieds de Jésus, aux genoux de Jésus, il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Ésaïe disait exactement la même chose, « Je suis un homme impur. » car l'effroi l'avait saisi, lui aussi. Pierre est saisi par la peur, par la terreur, par l'effroi. Et Jésus va intervenir auprès de lui de la même manière que Dieu l'avait fait auprès d'Ésaïe. Il lui dit, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors, ils laissèrent tout et le suivirent. Beaucoup de points communs entre ces deux récits, beaucoup de ressemblances. Tous les deux sont des hommes pécheurs qui sont saisis par l'effroi. Ici, Jésus va intervenir et confier à Pierre une mission. N'aie pas peur, et désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Alors Pierre, Jacques et Jean laissent tout pour leur suivre. Ces trois-là qui étaient saisis d'effroi se mettent debout et commencent à marcher derrière Jésus pour l'accompagner dans son ministère. Il y a une expression qu'on utilise souvent à l'heure actuelle qui illustre bien ce passage. C'est quand on parle de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Notre zone de confort, c'est là où nous nous sentons à l'aise, en sécurité, où on se sent naturellement bien, tranquille, où on ne se pose pas trop de questions. C'est vrai que quand il faut sortir de la zone de confort, on ressent un petit peu d'anxiété, un petit pincement, parce qu'on ne maîtrise plus tout à fait la situation. Mais en général, quand on a pris le risque de sortir de sa zone de confort, on ne le regrette pas. Jésus dit ça avec une parole que je voudrais que vous reteniez dans vos cœurs. Jésus lui dit, avance en eau profonde. Avance en eau profonde. C'est l'invitation que Jésus lance à Simon, de sortir de sa zone de confort pour avancer en eau profonde, ou au large, selon les traductions. L'eau profonde, c'est là où on n'a plus pied, où on perd ses certitudes absolues, où on ne maîtrise plus la situation. Et vous savez, les Juifs, au temps de Jésus, n'étaient pas de très bons navigateurs. Ils se sont toujours contentés de naviguer le long des côtes ou le long des bords du lac. Ils avaient peur des tempêtes, ils n'étaient pas très habiles pour naviguer. Et on comprend que dire à Pierre « avance en eau profonde », ce soit quelque chose qui va lui faire peur, qui va l'interpeller et il va réagir. Jésus invite donc Simon à agir d'une manière qui ne le rassure probablement pas. Tiens, et moi, et nous ? Qu'est-ce que cette invitation peut signifier pour nous, cette invitation qui est lancée par Jésus d'avancer au large? Nous avons tous tendance à ronronner un petit peu, à rester dans nos activités habituelles, dans nos idées toutes faites, dans notre cercle de relations habituelles. C'est ça notre zone de confort. Et c'est utile de pouvoir l'identifier, c'est important d'avoir une zone de confort où on peut se réfugier à certains moments pour prendre un peu de repos. Nous avons besoin de cette zone de confort pour trouver notre équilibre. Mais en même temps, Jésus nous invite à aller plus loin, à sortir de cette zone de confort. Il y a à peu près 4 ans, j'avais décidé de fermer mon cabinet. C'était fait depuis 2-3 mois. Et donc j'avais un peu plus de temps disponible et j'avais envie de faire quelque chose dans le domaine social. Je m'étais demandé, est-ce que ce serait bien de participer à la maraude? Et en même temps, j'ai lu des annonces dans un journal médical où Médecins du Monde demandait des médecins bénévoles pour faire des consultations pour des personnes sans papier. Ce sont donc des étrangers qui n'ont aucun papier, qui ne sont pas reconnus comme réfugiés, qui n'ont même pas fait de demande de réfugiés et qui n'ont accès à aucun soin de santé. J'avais lu cette annonce, mais ma timidité habituelle me freinait très fort. Il fallait faire la connaissance d'une équipe inconnue que je n'avais jamais vue. Je n'avais aucune expérience de ce type de population au point de vue médical. Et donc j'hésitais beaucoup. Et à ce moment-là, Je me souviens très bien, on a eu une classe d'école du sabbat ici devant, qui était animée par Ludivine, et Ludivine a posé cette question, sommes-nous prêts, comme croyants, à sortir de notre zone de confort? Cette parole m'a marqué, et suite à cela, j'ai décidé de me lancer, et je vous garantis que je ne le regrette pas. C'est une expérience qui est à la fois bénéfique pour ceux qui reçoivent des soins, mais qui est encore plus bénéfique pour ceux qui les donnent, je crois, grâce au contact que l'on peut nouer. Alors, que devons-nous quitter de nos habitudes? C'est différent pour chacun. À nous d'identifier dans notre conscience ce qui risque de nous déstabiliser et là où nous devons faire des efforts pour sortir, pour aller au large, pour aller dans les zones d'eau profonde. Nous devons accepter que Jésus nous invite chacun à partir au large. Devenir le disciple du Christ, ce n'est pas se bercer doucement de nos petites certitudes, bien installés dans un bon fauteuil, dans notre train-train quotidien. Jésus dit « Avance au large » et curieusement, Simon va accepter tout de suite. Il y a juste une petite hésitation en disant « Nous avons déjà travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. » Bon, c'est curieux que Simon ait accepté. Jésus n'était pas un type qui avait l'air d'un pêcheur expérimenté. Il manquait de bronzage, il manquait de force, sans doute, parce que c'est un métier qui est dur, celui de conducteur de barque, où il fallait ramer. Et pourtant, Simon va lui faire confiance. Immédiatement, jusqu'à oser faire ce qui ne le rassurait vraiment pas du tout. Et ses deux amis, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vont le suivre dans cette aventure. Ils font tous ensemble confiance à Jésus. Cela, c'est l'aventure de la foi. C'est l'aventure d'un disciple, des disciples. C'est seulement parce que Simon, Jacques et Jean ont osé sortir de leur zone de confort qu'ils sont appelés par Jésus à le suivre et à devenir pêcheurs d'hommes. Il fallait qu'ils osent quitter la maîtrise totale de la situation et qu'ils prennent des risques. Mais ça vaut la peine. La pêche est miraculeuse. On découvre vraiment ce qu'est la confiance en Dieu que quand on a perdu la maîtrise de la situation, qu'on remet sa vie entre les mains de Dieu. Osez aller plus loin. Osez partir ailleurs, nous dit Jésus. Sortir de ma zone de confort, partir au large, en eau profonde, c'est accepter de l'inattendu et de l'imprévu dans ma vie. C'est me laisser bousculer par ce qui n'était pas planifié, organisé, bien prévu. Mais c'est souvent à ce moment-là qu'on découvre la trace du passage de Dieu dans notre vie. Sortir de ma zone de confort, c'est aussi découvrir quelles sont mes limites. C'est prendre des risques et c'est donc accepter la possibilité d'un échec éventuel. La pêche n'est pas toujours miraculeuse, mais le risque vaut la peine d'être pris. Sinon, soit je ne fais rien, parce que je suis persuadé que je n'en suis pas capable, que j'ai beaucoup trop de défauts, que je ne suis pas digne de m'engager. C'est une zone de confort, il faut l'avouer un petit peu triste ou net. Soit j'accepte la promesse de Dieu qui me dit d'aller en eau profonde, là où je n'ai plus pied. Fais-moi confiance, nous dit-il, et tu feras des pêches miraculeuses. Ces deux récits, celui d'Ésaïe et celui de Luc, nous apprennent que nous sommes capables de faire bien d'autres choses que ce à quoi nous nous contentons souvent, ce à quoi nous nous cantonnons souvent. Nous arrivons dans une période de nomination et j'entends déjà des personnes qu'on va consulter pour leur demander s'ils accepteraient de remplir leurs responsabilités et vont dire ah non, ça moi je ne suis pas capable. Et ces deux récits nous rappellent que Dieu est capable de nous transformer, de nous rendre actifs, de nous rendre efficaces si on lui fait confiance. Nous pouvons faire bien d'autres choses que ce que nous faisons d'habitude. Et ça, c'est un chemin de vérité, c'est un chemin qui nous permet de nous épanouir. Fini les illusions sur soi-même, c'est une opération vérité qui est en route quand nous accueillons la parole du Seigneur. Et comme le vécurent aussi Ésaïe en présence de Dieu, trois fois saint, et Simon-Pierre après sa pêche miraculeuse. Comme Ésaïe, nous sommes sûrement prêts à répondre à l'appel du Seigneur. Me voici, envoie-moi. Mais pour devenir disciples du Christ, à la suite de Simon-Pierre, des fils de Zébédée et de tant d'autres, il faut accepter de sortir de notre zone de confort, d'avancer au large, là où Dieu agit. Ils l'ont fait, et nous, et moi. Amen.